Alors, bon matin à vous tous, bon dimanche, bonne fête des pains, Feliz Dia del Padre. Alors, ce matin, nous sommes, une journée tout à fait spéciale, où est-ce qu'on veut honorer, comme ça a été mentionné ce matin, nos pères, et j'ai choisi comme thème et comme message de parler du Père par excellence, Dieu, notre Père céleste, le Père par excellence. Et comme nous avons vu ce matin lors du repas du Seigneur, il fait tout à merveille. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il est merveilleux. Et Dieu ce matin, c'est le Père merveilleux, le plus merveilleux de tous. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver l'Évangile selon Luc, chapitre 12, Luc chapitre 12, et notre texte pour ce matin, ce sont les versets 29 à 32, Luc 12, 29 à 32. Vous savez, un jour, un professeur a demandé à l'un de ses élèves, une petite fille, si elle savait ce que cela voulait dire, la fête des pains. Puis elle a répondu, bof, c'est facile, c'est les restants de la fête des mères. Dans une autre classe, un autre prof a demandé à un petit garçon de définir la fête des pères. Lui aussi a dit, bof, c'est facile, c'est comme la fête des mères, sauf que on n'a pas besoin de dépenser autant pour le cadeau. Mark Twain, le célèbre auteur américain, celui qui a écrit Tom Sawyer, Huckleberry Finn, etc., a dit ceci. Quand j'étais un ado de 14 ans, mon père était tellement ignorant que je supportais à peine d'être près de lui. Arrivé à l'âge de 21 ans, j'étais stupéfait de constater combien le vieux avait appris en 7 ans. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il puisse jouir d'une relation parfaite avec son Créateur et avec ses semblables. Mais nous savons, à cause de la chute, où le péché est entré dans le monde, et comme Michel dit très souvent, l'homme a développé des relations tordues avec son Créateur et avec ses semblables. Et à mon avis, au niveau humain, la relation qui a souffert le plus, c'est la relation père-enfant. Père-fils, père-fille. Avez-vous déjà remarqué que lors des sports télévisés, surtout le football américain, et quand on interviewe ces armoires de glace, là, ces grands gaillards, c'est toujours « hi mom, salut ma » et très rarement « hi pa, salut pa ». Est-ce que cela indique qu'il y a des pères qui échouent plus souvent dans le rôle de père que les mères qui échouent dans leur rôle? Et qu'en est-il pour nous ce matin? Tous ici, ce matin, vous avez eu ou vous avez un père. Et qu'importe le sentiment qui vient à l'esprit en pensant à lui, que ce sentiment soit positif ou négatif, ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu, j'aimerais vous encourager à vous réjouir dans votre relation avec le Père, par excellence, votre Père céleste. Et si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, ne ce serait pas merveilleux de commencer une relation même avec Dieu aujourd'hui même? Et bien sûr, pour nous qui sommes pères et grands-pères, et peut-être arrière-grands-pères, que ce texte nous aide à mieux jouer notre rôle. Alors, on va lire notre texte, Luc chapitre 12, au verset 29, juste pour mettre dans le contexte. Le Seigneur est en train de justement mettre ses disciples en garde, les encourager, mettre en garde ceux qui étaient contre l'inquiétude. Et au verset 29, il va leur dire ceci, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père, ah que c'est beau, sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et ce matin, je vais parler justement de l'excellence de la paternité de Dieu. Et on va regarder trois aspects de cela. Alors, dans un premier temps, cette excellence de la paternité de Dieu est vue dans une relation qu'il entretient avec ses enfants. Et dans un premier temps, c'est une relation qui est personnelle, une relation personnelle. Si vous regardez votre texte encore au verset 30 et le verset 32, que lisons-nous? « Votre Père », je mets l'emphase sur « votre ». Verset 32, « Votre Père encore a trouvé bon ». Vous savez, la Bible parle de la nécessité d'une nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 7, Jésus a dit ceci, « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Bien sûr, il parlait d'une naissance spirituelle, même si Nicodème avait des difficultés à comprendre, pour devenir un enfant de Dieu. Mais tout comme une naissance physique, où l'enfant qui vient au monde possède un père biologique, la nouvelle naissance, le croyant entre eux dans une relation personnelle et intime avec le Dieu de l'univers, où Dieu devient son père. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Votre Père ». Ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas orphelin, vous avez un Père. Un Père céleste, il est votre Père. C'est une relation tout à fait personnelle. Et j'aimerais vous dire deux choses à propos de cette relation personnelle avec Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, sachez que vous n'étiez pas un accident de parcours. Dans Jean 1, 12, Jésus va dire ceci, que tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean va ajouter ceci, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a voulu que vous soyez son enfant. Comme je dis, ce n'était pas un accident. Cette relation personnelle avec vous, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Dieu l'a voulu. Et la deuxième chose aussi, sachez que vous, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu vous a choisi par adoption dans sa famille. Vous savez, quand on adopte un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à l'orphelinat et on fait un choix. On fait un choix. Il y a beaucoup d'enfants là, mais vous partez, mais si vous êtes comme Joël Lapierre, peut-être vous allez partir avec 5-6, mais normalement vous en partez avec un parce que vous choisissez. Et Dieu, dans sa parole, nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption et cet esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Nous avons été adoptés, choisis et par Dieu. Alors ce matin, nous pouvons nous réjouir du fait que Dieu nous a choisis pour être son enfant parce qu'il nous aime. Il nous aime. 1 Jean 3, 1 nous dit ceci, « Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. » Et ça, c'est à cause de l'amour de Dieu. Alors, une relation personnelle, mais deuxièmement aussi, il y a une relation privilégiée. Dans cette relation avec Dieu, l'excellence de la paternité de Dieu est vue dans une relation privilégiée. Et maintenant, le texte au verset 30-32 dit ceci, « Votre pain, c'est... » Et vous savez, les Juifs avaient une petite notion du fait que Dieu était un pain. C'est seulement dans l'Ancien Testament, si vous regardez les textes qui parlent de Dieu comme pain, vous avez à peu près 5 ou 6 fois que c'est mentionné où Dieu est identifié comme un pain. Eux, ils voyaient plutôt Dieu comme le grand Dieu transcendant. Il était le Jéhovah, justement, de l'Ancien Testament, l'éternel Dieu, le grand Dieu qui transcendait tout dans l'univers. Et il est intéressant de considérer les noms que les Juifs donnaient dans l'Ancien Testament par rapport aux besoins qu'ils ressentaient à un moment donné. Alors, juste quelques exemples. Quand ils avaient un besoin matériel, alors ils voyaient Dieu comme le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. S'ils étaient anxieux ou inquiets, alors ils voyaient Dieu comme le Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix ou Dieu notre paix. S'ils se sentaient isolés ou tout seuls, ils voyaient Dieu comme le Jéhovah Shama, l'Éternel est ici. Et s'ils étaient malades, ils voyaient justement Dieu comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et effectivement, Dieu n'a pas changé. Même encore dans le Nouveau Testament, l'Éternel Dieu, notre Père, est tout cela pour nous. Mais quel privilège qu'avec tout cela, nous avons aussi, comme je dis, cette relation maintenant intime, personnel, privilégié, où on peut aller un pas de plus et nous pouvons appeler Dieu Père. Et c'est intéressant que dans le Nouveau Testament, Jésus va appeler Dieu Père 53 fois. Il va l'appeler notre Père 21 fois et votre Père 21 fois, 95 fois en tout dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on voit Dieu et un Père. Et ça, ce n'est pas compté juste les épîtres, là. C'est juste dans les évangiles. Et pourquoi est-ce que nous avons toute cette emphase sur le fait que nous avons cette relation maintenant personnelle et privilégiée avec Dieu? Parce que Jésus veut nous rentrer, comme on dit en bon québécois, dans le coco, que nous avons une relation d'intimité privilégiée avec Dieu, où nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu et l'appeler Abba. Appeler Papa. En anglais, appeler Daddy. Ça, c'est Romains 8, 15. Et ça, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. Accordé à nous qui autrefois nous étions des ennemis de Dieu. Romains 5 nous dit que nous étions ses ennemis. Nous étions des esclaves de ce monde, esclaves de la chair et du diable, Éphésiens 1:3. Nous étions perdus dans les ténèbres et sous le jugement de Dieu, Jean 3:36. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, nous accorde ce privilège de venir dans sa sainte présence, nous approcher de son trône de grâce avec assurance, d'avoir une face-à-face avec lui parce qu'il est notre Papa du ciel. Et quelle grâce ce matin de ne plus être, comme Éphésiens nous dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints et vous êtes des gens de la maison de Dieu. Quel privilège! Alors, combien nous devrions maintenant louer Dieu pour cela? Combien nous devrions être reconnaissants? Comme des Mephibosheths que David allait chercher. Et Dieu, tu vas venir dans ma maison et tu vas t'asseoir à ma table comme l'un des fils du roi. Et il voyait le roi face à face. Quel privilège que nous avons! Que le Juif, lui, n'avait pas. Et troisièmement, cette excellence de la paternité de Dieu est vue dans une relation permanente. une relation permanente entre Dieu et ses enfants. Vous savez, on nous dit qu'à l'époque biblique, un père pouvait renier ses propres enfants, mais jamais, jamais, jamais ses enfants adoptifs. Et aujourd'hui, nous avons la même garantie. Un enfant de Dieu un jour, vous êtes enfant de Dieu toujours. Si je cite encore Jean 3, 1, et le texte nous dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, maintenant et pour toute l'éternité. » Alléluia! Gloire à Dieu! Et comme si on pense à cette relation personnelle qui nous indique l'amour du Père, nous avons une relation privilégiée qui nous indique la grâce de Dieu. Alors, une relation permanente nous indique aussi la fidélité du Père. Et laissez-moi vous dire ce matin, sous l'autorité de la parole de Dieu, que rien, absolument rien, ni ange, ni démon, ni homme, qui que ce soit, peut briser cette relation que Dieu a établie entre lui-même et ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à lui-même et il est fidèle à ses promesses. Et quel beau texte d'assurance nous avons à propos de ce sujet. Dans Jean 10, 28, Jésus va parler de ses brebis, des enfants de Dieu comme ses brebis. Il va leur dire ceci, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Et si on n'avait pas encore compris cela, il va ajouter au verset 29, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Dieu est fidèle à ses promesses, fidèle à sa personne. Et ce matin, nous avons cette relation privilégiée avec lui personnelle, cette relation permanente, parce qu'il est le Père par excellence. Il est le Père qui est merveilleux. Non seulement l'excellence de la paternité de Dieu est démontrée par le fait que Dieu est un Père excellent, mais aussi on voit cela dans une relation avec ses enfants, mais on voit aussi Dieu est aussi un Père qui est responsable. On va voir dans la responsabilité. Parce que vous savez, un Père humain, le moment qu'il devient Père, il y a des responsabilités envers ses enfants. Et parfois, quand le petit est là, nouveau-né, le père, il le prend, je sais que des fois, il portait à paniquer, là. Tu sais, il a une vie, là, il a bouche à nourrir, tout ça. Mais Dieu prend ses responsabilités. C'est un père qui est responsable. Et malheureusement, oui, comme j'ai mentionné au début dans l'introduction, il y a des pères qui échouent dans ses responsabilités. Mais la Bible est pleine aussi. Peut-être que vous avez des exemples devant vous. On parle du grand souverain sacrificateur Élie dans l'Ancien Testament qui avait des fils qui étaient croches, qui faisaient des choses abominables devant l'Éternel. Et cet homme a manqué dans ses responsabilités justement de corriger ses enfants. Mais il a payé cher pour cela. On pense aussi au grand roi David, un homme vaillant guerrier, mais point de vue familial, il y avait des problématiques, il y avait des fils aussi, puis David a échoué aussi à ce niveau-là. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu prend ses responsabilités au sérieux. Et vous savez, le texte nous dit au verset 30, je reviens à ce texte ici, « Votre Père, maintenant je mets l'emphase sur c'est. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Votre Père sait. » Qu'est-ce que ça nous dit? Que Dieu est un Père qui est connaissant et qui est conscient. Et le mot ici qu'on va utiliser pour parler de savoir, de sait, c'est le mot oïda qui veut dire simplement plus qu'une connaissance intellectuelle. Dieu, on peut le traduire par voir, avoir vu, être conscient d'eux. Laissez-moi vous dire ici ce matin que pour tout enfant de Dieu, que tous les besoins, aussi nombreux soient-ils, aussi complexes, aussi profonds, n'échappent pas au regard du Père. Dieu sait. Il sait, il est conscient de tout ce qui nous touche et qui nous affecte. Et vous savez, en tant que parent humain, à cause de la faiblesse de notre chair, il est possible de ne pas savoir des vrais besoins de nos enfants. Ça n'est pas arrivé. Et même parfois, on ne sait même pas où sont nos enfants. Ça peut arriver aussi, surtout quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence. Mais c'est rassurant de lire à propos de notre Père Céleste. Que de beaux textes. Il connaît la voix des justes. Psaume 1, 6. Dieu connaît les jours des hommes intègres. Il n'est pas ignorant, Dieu sait. Dans Psaume 139, on a fait référence à cela. David va dire ceci: Éternel, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, quand je marche et quand je me couche. Mais il est aussi le Père conscient, connaissant, mais regarde bien ceci. Dans Psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes la poussière. Dieu sait cela, la faiblesse qui nous colle à la peau. Et même l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, quand il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Dieu connaît, il sait cette faiblesse qui est la nôtre. Et c'est pourquoi il n'est pas seulement le Père qui est conscient, le Père qui est connaissant, mais il est aussi le Père qui est compatissant. Et combien de fois vous et moi, nous avons besoin de la compassion de Dieu. Quand on s'égare, quand on tombe, quand le même péché nous colle à la peau, nous avons un Père céleste qui sait de quoi nous sommes formés et qui se souvient que nous sommes poussières. Et pourquoi la Bible ne nous traite pas selon nos péchés, ne punit pas selon nos iniquités. Dieu sait. C'est sûr qu'il y a des conséquences pour nos gestes. Mais il connaît les faiblesses de ses enfants, et il est compatissant. Il est compatissant. Et ce matin, je loue un tel Père qui est compatissant à l'égard de ses enfants. Alors, Dieu le Père responsable, parce qu'il est connaissant et conscient, compatissant, mais Dieu aussi le Père responsable qui est capable et qui est compétent. Et c'est important de souligner cela, parce qu'à quoi bon d'être conscient d'un besoin si on n'est pas capable de combler ce besoin? Et vous savez, selon notre texte, Dieu, notre Père, a non seulement la connaissance des besoins, de vos besoins, mais il a aussi le pouvoir de combler ces besoins. Verset 32 que nous avons lu, le texte nous dit ceci: « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et le mot « royaume » implique qu'il y a un règne. Quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi, un règne. Et qui dit règne, dit aussi un roi, un monarque avec un pouvoir, quelqu'un qui a le pouvoir de régner. Alors notre Père Céleste, tel un roi puissant et bienveillant, possède tout ce qui est nécessaire pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Alors, dans le verset 31, là, quand il dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus », mais Dieu a le pouvoir, il est capable d'appuyer ses paroles par les actions parce qu'il a le pouvoir. C'est un roi. Il est capable. Et vous savez, il nous arrive parfois de douter que Dieu a la capacité de prendre soin de nous. Ça nous arrive tous. Qu'est-ce que Dieu va faire dans une telle circonstance? Mais j'aimerais vous dire que c'est le même Dieu qui était capable de prendre soin de Noé quand il envoie le déluge. Dieu a préparé le moyen de s'en sortir. Quand les enfants d'Israël étaient face à une situation désespérée, devant la mer Rouge, en arrière Pharaon avec ses armées, Dieu était capable. Par la puissance, par son serviteur Moïse, a fendu la mer Rouge en deux, les enfants d'Israël ont passé au pied sec. C'est le même Dieu aussi qui les a nourris dans le désert pendant 40 ans. Il a fait sortir de l'eau du rocher et fait pleuvoir aussi du ciel de la manne pour ses enfants. C'est lui aussi, quand ils sont arrivés en terre promise devant Jéricho, cette ville qui avait des fortifications, des murailles. Et dans ce pays, il y avait des géants, de la race des Anakim. Dieu, dans sa puissance, dans sa capacité, le pouvoir qu'il avait, il est capable, il a fait renverser justement les murailles de Jéricho. Et on peut penser aussi à le jeune David qui est allé contre Goliath. Dieu lui a donné la force de terrasser. Quand il y avait une famine en Israël, cet homme Élie, son serviteur, Dieu était capable, au sein d'une famine, d'utiliser des moyens extraordinaires, d'utiliser des corbeaux pour aller chercher de la bouffe, pour nourrir son serviteur. Dieu est capable. Et on peut aussi ajouter justement les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente. Dieu les a préservés. Fermer la gueule des lions pour qu'ils ne dévorent pas Daniel, son fidèle serviteur. Vous allez me dire, OK, ça c'est des belles histoires de l'Ancien Testament qu'on raconte à nos enfants lors de l'école dimanche. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, est capable. Il a nourri la foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Celui aussi qui a ressuscité des morts, et j'en passe. Dieu est capable. Et puisque Dieu était capable de faire tout cela, laissez-moi vous dire ce matin qu'il est capable de prendre soin de nous. Des beaux textes dans la parole de Dieu, Éphésiens 3:20 nous dit ceci, que Dieu est même capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dieu peut nous surprendre. Jérémie 32:17 nous dit ceci, en parlant de celui qui a fait les cieux et la terre par sa grande puissance, rien n'est étonnant de sa part. Romains 4:21 nous dit ceci, ce qu'il promet, et c'est dans le contexte d'Abraham, cet homme qui était âgé de 99 ans, sa femme Sarai était stérile, et il leur a promis un enfant, puis on aurait pu dire, mais écoute, impossible. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. J'aimerais, et je vous espère que ce matin, que vous êtes convaincus au fond de votre cœur que notre Père est capable. Incapable. Alors, un Père responsable, parce qu'il est connaissant et conscient, compatissant, il est capable et compétent, mais une autre chose aussi, un Père qui est disposé et disponible. Parce qu'encore une fois, à quoi bon être un Père connaissant et conscient de nos besoins, capable et compétent de combler ses besoins si on n'est pas un Père qui est disposé et qui est disponible pour les combler? Ça prend tout ça ensemble. Pas avoir des bonnes intentions, mais il faut être disposé à le faire, même si on a tout le pouvoir à le faire. Il faut aussi être disponible pour le faire. Et Dieu, gloire à son nom, il est tout cela. Le verset 32 de notre texte nous dit ceci, « Le Père, votre Père, a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et le mot dans l'original, comme je dis, c'est intéressant. « Trouver bon » veut dire « choisir ». Être déterminé, être prêt, trouver plaisir en faisant ce qui est bon, juste et correct. Et la parole de vie nous dit ceci, votre Père a choisi. Il est disponible, disposé à vous donner le royaume. Et comment est-ce qu'on sait justement, malgré le fait que des fois les problèmes de la vie peut nous faire croire que Dieu n'est pas intéressé à nous. Des fois, la vie amène des coups durs. Et malgré le fait qu'on a tout cela de façon dans la tête, ça n'a pas encore descendu dans le cœur. Mais j'aimerais vous citer un texte qui me démontre que Dieu est disposé et disponible. Romains 8:32, pas besoin d'y tourner, mais nous dit ceci. Celui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu, pour que vous soyez son enfant, n'a même pas épargné son propre fils Jésus. Il l'a livré au tourment de la croix. Il l'a sacrifié pour vous et pour moi, pour que nous soyons ses enfants. Alors, ça me dit qu'il est disposé à faire de bonnes choses à notre égard. Jésus, dans Jean 17, 24, va dire ceci à son Père: « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. » Jésus aussi veut. Il est disposé et disponible pour que nous soyons avec lui dans sa gloire. Et l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, va dire ceci, que nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pouvons-nous douter là, que Dieu est un Père qui est disposé aussi, est disponible pour combler nos besoins? Et ça nous parle justement de notre futur, de l'éternel, parce que Dieu nous a sauvés justement des peines éternelles et il a garanti notre futur. Alors si Dieu est allé jusqu'à quel point de sacrifier son Fils, Jésus a prié pour que nous soyons avec lui pour voir sa gloire. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et nous avons un avenir glorieux. Alors combien plus dans le présent que nous devrions être convaincus que Dieu est disponible et disposé à combler nos besoins. Et nous avons des beaux textes dans la parole de Dieu qui nous encouragent. Alors justement, Dieu va dire ceci: je suis disponible. Invoque-moi au jour de la détresse. Oui, la vie peut amener des coups durs. On a parlé ce matin au repas du Seigneur de la souffrance. Il ne faut pas non plus minimiser ni banaliser. Mais Dieu dit: je suis disponible. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je suis là. Psaume 145, 18 va dire ceci: l'Éternel est prêt de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et que le Seigneur nous donne tous la grâce de dire avec le psalmiste, psaume 116, « Je l'invoquerai toute ma vie. » Pourquoi? Parce qu'il est disponible, il est disposé à répondre à nos besoins. Et troisièmement, je termine avec ceci, l'excellence de la paternité de Dieu est vue à travers une relation, oui. À travers des responsabilités, Dieu qui pense des responsabilités au sérieux, mais aussi cette excellence de la paternité de Dieu devrait être vue à travers une réponse. Une réponse. Et cette réponse nous appartient. Alors, si on veut dire que Dieu est un Père merveilleux, il est un Père par excellence, alors notre réponse à cette paternité va déterminer si on croit vraiment qu'il est le Père par excellence. Et c'est juste, plus que juste, de façon intellectuelle. Et vous savez, on peut compter sur Dieu. Dieu, il va remplir son rôle. Il n'y a pas de problème avec cela. Parfaitement, fidèlement. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, il faut admettre qu'il y a des moments quand nous échouons en tant d'enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons démontrer alors qu'on croit justement qu'il est le Père par excellence? Comme je dis, par notre réponse. Et comment est-ce qu'on va répondre? Mais on va exercer la foi. On va exercer la foi. Et vous savez, dans le texte que nous avons lu, dans le contexte d'un père qui prend soin de ses enfants parce qu'il est un père merveilleux, il est le Père par excellence, Jésus va nous dire, nous montrer maintenant la réponse. Et c'est le fun quand l'application d'un texte est dans le texte. Je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. L'application est là. Et Jésus va nous montrer comment répondre justement à cette excellence. Il va nous dire ceci: ne soyez pas inquiets. Ne crains point. Et il est intéressant à noter l'image utilisée au verset 29, parce que c'est celle d'un bateau, de mots, inquiet, ballotté par les flots de la mer lors d'une tempête. Et Jésus est en train de nous dire ce matin: enfants de Dieu, ne permettez pas à vos pensées d'être ballottées par les flots du doute, de l'inquiétude ou de la crainte. Et ça, pour vous et pour moi, c'est un défi. C'est un défi d'apprendre à faire confiance au Père, qu'importe ce que la vie peut nous apporter. Ou parfois, il semble qu'il n'y ait pas de solution, il n'y a pas d'issue. Puis c'est tellement difficile, cette souffrance, c'est nos cœurs sont là à craquer. Jésus a dit, ne crains point, ne soyez pas inquiets. Même quand l'ennemi, comme la femme de Job, va souffler dans son oreille, maudit, dur et meurt, Jésus va nous dire, écoute, c'est un père par excellence, fais-lui confiance. Il est souverain, il est en contrôle de toutes circonstances, et même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi, sa parole va nous dire ce matin, ayez foi en Dieu. Psaume 62,8 va nous dire ceci, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Alors, dans la mesure que moi, j'ai saisi que c'est un Père qui est bon et bienfaisant, mais c'est dans la mesure que je vais justement exercer la foi, que c'est malgré ce qui m'arrive, je suis son enfant, il m'aime, il l'a démontré, c'est un Père qui est gracieux, un Père qui est fidèle. Il y a des choses qu'il permet dans ma vie que je ne comprends pas, mais ayez foi en Dieu et confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence, il est compatissant, il est capable justement d'être notre refuge. La réponse. Et la deuxième chose, c'est nous devrions être fidèles. Si on veut justement élever la paternité de Dieu, pour dire au Seigneur, qui est le plus merveilleux des pères, un père par excellence, mais il faut aussi être fidèle. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que dans cette relation entre nous et notre Père, on devrait lui donner la première place. Si on veut être des enfants fidèles, alors on le montre en donnant la première place à notre Père. Et le texte va nous dire ceci. Alors, Jésus va dire ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et plutôt dans le texte Luc, mais dans Matthieu 6, 33, ça va être chercher premièrement. Et dans l'original, chercher à l'idée justement de désir ardemment, être passionné. Et qu'est-ce que cela veut dire que nous devions alors, en plus de faire confiance à notre Père Céleste, mettre notre Père et les choses de notre Père en premier lieu. Prioriser, avoir la priorité dans lui, ça, la priorité. C'est triste de constater que souvent, trop souvent, nos désirs sont mal placés. On a les priorités pas dans le bon ordre. Et quand, résultat, nous manquons le meilleur de ce que Dieu a préparé pour nous. Mais Dieu est miséricordieux. Et si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Mais quand je dis, on va manquer le meilleur qu'il a préparé pour nous. Alors, si on veut justement montrer à notre Père qu'il est merveilleux, qu'on l'aime, que sa paternité est excellente, nous devrions alors être fidèles en lui donnant la première place. Et ces choses aussi à lui, la première place. Je termine par ceci. Dieu est vraiment le Père par excellence. Le plus merveilleux des pères. Le fait qu'il aime ceux qui ne méritent pas d'être aimés, qu'il les sauve par sa grâce, qu'il les adopte dans sa famille, qu'il en prend soin d'une manière tout à fait spéciale comme nous avons vu, est la preuve indéniable de cela. Et ce matin, je ne sais pas à propos de vous, mais moi je suis heureux d'avoir un tel père. Je suis content, je loue Dieu pour cela, cette grâce qu'il m'a accordée d'être capable de l'appeler papa, daddy, padre si vous voulez en espagnol. J'aime justement cette relation, je l'apprécie et je remercie Dieu pour cela, c'est lui qui m'a donné cela. Et nous devrions bénéficier au max de cela. Et vous savez, il est possible ce matin que il y a quelques-uns ici où les affaires du Père ne sont pas prioritaires. C'est tout à fait possible. On lutte tous avec cela. Et il vous aime pareil. Puis il va chercher toujours le meilleur pour vous. Mais ce matin, si vous luttez avec cela, je vous invite, alors, en considérant l'excellence de sa personne, de sa paternité, de tel Père qu'il est, que vous lui donnez la première place dans votre vie. Vous allez voir les bénédictions qu'il va déverser pour vous. Et si ce matin vous avez des besoins, j'ai parlé un peu de la souffrance, des difficultés que la vie peut apporter. Je ne veux pas minimiser ni banaliser cela, mais si vous avez des grands besoins ce matin, venez à votre Père Céleste, il prendra soin de ses besoins. Et finalement, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai dit au début, maintenant vous n'avez pas de relation avec ce Père merveilleux. Alors ce serait extraordinaire, aujourd'hui, lors de la fête des Pères, que vous preniez une décision, justement, de connaître le Fils et ainsi connaître le Père. Et à travers le texte, nous avons vu ce que j'ai dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu est venu dans ce monde pour donner sa vie et mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés afin que nous puissions avoir une relation d'intimité avec le Père Céleste. Et si vous avez été blessé, quoi que ce soit, avec une peine terrestre, ça peut arriver, mais vous avez un Père Céleste qui est parfait, qui vous aime, qui vous prendra dans ses bras et qui vous dira « Je vous aime et je veux que vous soyez avec moi pour toute l'éternité. » Il n'est pas trop tard. Ce matin, vous pouvez juste, avec une simple prière de repentance, dire « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'étais offensé, mais je viens au pied de la croix et je prends Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, celui qui est mort pour moi et qui a porté mes péchés en son corps sur le bois. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. » La parole de Dieu nous dit, en faisant cela, vous allez devenir un enfant de Dieu. Et commencez la plus merveilleuse de toutes les relations. Enfant de Dieu, le Père par excellence. Alors que son nom soit glorifié. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es, Dieu notre Père, ce Père merveilleux. Et nous voulons te dire ce matin, prends le temps, on ne le dit pas assez souvent, que tu es merveilleux, tu es le meilleur des pères. Et ce matin, lors de la fête des pères, nous voulons prendre le temps, s'arrêter pour le dire et élever ton nom. Et en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, nous te demandons de nous aider à être aussi des enfants dociles, obéissants, refléter justement notre appréciation que tu es ce Père si merveilleux. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas encore comme le Père du ciel, le Papa du ciel qui nous aime, Seigneur, révèle-toi à cette personne. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent accepter Jésus et commencer cette relation intime avec toi et qui va durer pour toute l'éternité. Alors, béni sois-tu, c'est par de ta bénédiction. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.